Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de Radio Vilta, le magazine hebdomadaire de l'atelier radio des étudiants de Sorbonne Paris Nord. Nous sommes enregistrés dans les conditions du direct depuis la chaufferie sur le campus de Viltaneuse. Cette semaine, notre émission spéciale est consacrée aux ateliers du service culturel de la faculté. Mais cette émission est d'autant plus spéciale puisque c'est la première fois qu'elle est diffusée et donc peut-être que nous sommes écoutés quelque part en ce moment même à Viltaneuse. Pour faire et refaire l'actualité de la fac autour de cette table, notre équipe habituelle de reporters et chroniqueuses de choc, mais aussi notre invité fil rouge que nous allons saluer dans quelques instants juste après notre sommaire. Et dans cette édition du mercredi 27 mars spécial atelier artistique, nous irons du côté du théâtre avec un regard sur cette pratique artistique comme génératrice de confiance en soi. Il y aura également un portrait, celui de Wilmark Wahl, qui est réalisateur et qui s'occupe d'initier de manière ludique les étudiants au langage cinématographique. Un autre atelier, mais sonore cette fois, avec un reportage au cœur de Negro Spiritual, cet art vocal chargé d'histoire, né aux États-Unis au 19e siècle. Et enfin, nous irons à la rencontre d'une artiste, une peintre. Elle est en charge de l'atelier art plastique, il s'agit de Bérangère Oumaro, qui a accepté de répondre à nos questions. Ce sera en fin d'émission. Installez-vous et tendez l'oreille, c'est l'heure de Radio Vilta. Et pour commencer cette édition, il est le monsieur atelier de l'université de Sorbonne-Paris-Nord. C'est lui qui organise tout ce petit monde et qui permet aux étudiants de profiter des pratiques artistiques du service culturel dans de bonnes conditions. Et méfiez-vous, car c'est aussi lui qui transmet les notes. Bonjour Xavier.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Alors vous êtes chargé des ateliers de pratiques artistiques. Qu'est-ce que ça représente exactement? Combien d'ateliers et sur quel campus?
Globalement, on a 15 ateliers sur le campus de Viltaneuse. Il y a un côté très humain dans ce poste, car je suis l'interlocuteur privilégié de ces 15 intervenants et de plus de 250 étudiants par semestre. Donc au quotidien, je suis là pour répondre à toutes les questions des étudiants, d'assurer, comme vous l'avez dit, le suivi pédagogique en fait, des ateliers, le bon déroulé, le jour J des différents ateliers. Il y a aussi un côté très financier et plus de l'ordre de la production. Pour vous donner un exemple assez concret, lors de la création d'un atelier, on recherche avant tout un intervenant qui pourrait convenir à nos besoins. Il y a une rédaction d'un contrat entre l'intervenant et l'université. Ensuite, il y a une demande de devis qui est faite, tout simplement. On voit ensemble les besoins matériels, les besoins en fait en lieu. Le planning est établi et ensuite la communication de notre côté pour qu'il y ait un maximum de public au quotidien dans nos ateliers. Voilà.
Alors, on voit que ça représente beaucoup de travail. Alors justement, donc, puisqu'on part des ateliers, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un premier reportage d'Elodie. Elodie, elle nous emmène dans l'univers du théâtre pour porter un regard sur son impact sur la confiance en soi. C'est le sujet qu'elle a choisi d'évoquer avec nous.
Les participants de l'atelier théâtre débutent par un échauffement physique et vocal pour détendre leur corps. Ils continuent avec des exercices de respiration, puis des exercices collectifs. Les étudiants travaillent en groupe sur des scènes avec une certaine autonomie. Mona Marie, metteuse en scène et doctorante en art du spectacle, nous donne son astuce pour apprendre aux étudiants à être confiants et à l'aise face à ses camarades.
Le tips dans mon approche, c'est de commencer toujours par se mettre tous au plateau et tous essayer la même chose et ensuite de le montrer. On est tous dans le même bateau, on est tous en train de faire la même chose. Vraiment, l'idée, c'est de laisser un peu le jugement, le regard des autres dehors de la salle, de l'atelier.
Pour certains, pratiquer cet art soumis au regard des autres serait un calvaire, dû à la peur, au stress, à la timidité. Pourtant, tout s'apprend. Morgane, de l'atelier de Viltaneuse, nous partage son expérience.
Je pense vraiment que le théâtre, ça aide à maîtriser son corps, que ce soit l'organe de la voix ou que ce soit les gestes, et s'exprimer, voilà, se tenir, respirer, se déplacer aussi.
Aujourd'hui, de nombreuses écoles et universités proposent à leurs étudiants des clubs et d'ateliers qui dispensent cet art. Des études scientifiques ont prouvé l'impact positif du théâtre sur l'éloquence et la prise de parole en public, mais aussi sur la confiance en soi. Émilie en témoigne.
Quand on est timide ou mal à l'aise devant les autres, faire du théâtre, c'est un immense bienfait, puisque petit à petit, on se désinhibe en fait totalement du regard que les autres peuvent porter sur nous-mêmes, et puis aussi modifier le propre regard que l'on a de soi-même.
Cela permet aussi aux jeunes qui voient leur corps et leur sociabilisation évoluer de trouver un repère, un lieu d'acceptation. L'individu acquiert des outils qui peuvent lui servir sur le plan scolaire, professionnel et personnel. Il s'intègre dans un groupe, le collectif devient important, le regard des autres et leur jugement beaucoup moins. À la question « Comment encourageriez-vous un élève timide et introverti à participer à l'atelier théâtre ?», Émilie a peut-être trouvé les mots pour vous convaincre.
Adieu la timidité au fur et à mesure des séances. Si on a le courage de se présenter aux autres, alors on a une meilleure perception de soi-même.
En effet, le théâtre devient une véritable école de vie, où la confiance en soi se conjugue harmonieusement avec la compréhension et la solidarité envers autrui.
Merci Élodie pour ce reportage sur les planches. Alors le théâtre, une école de vie. Xavier, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui assistez de près ou de loin aux ateliers? Vous voyez des changements? On vous a déjà fait des retours de ce genre?
Oui, effectivement, j'ai reçu plusieurs étudiants au service culturel en fait, qui avaient vraiment cette demande d'être plus à l'aise à l'oral dans le cadre de futurs entretiens d'embauche, dans le cadre d'exposés au quotidien à l'université. Et j'ai proposé en fait le théâtre pour ces étudiants-là comme une option, une possibilité de travailler la timidité, se désinhiber et en même temps de pouvoir connaître des auteurs majeurs du théâtre et leurs textes. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a également aussi de l'art oratoire. Qui a aussi des points communs avec le théâtre. Pour vous dire le succès de cet atelier, c'était un atelier uniquement sur Bobigny au S1. On a décidé de le placer aussi à Viltaneuse au S2. Voilà, il y a eu directement 20 étudiants qui se sont inscrits. Et donc l'année prochaine, on a décidé de le maintenir à Viltaneuse sur le S1 et le S2, donc toute l'année.
Une excellente nouvelle pour les étudiants donc, qui pourront bénéficier de beaucoup plus de créneaux. Alors on passe maintenant à un autre genre de pratique artistique qui fait appel non pas à des comédiens mais à des acteurs. Il s'agit du cinéma et pour en parler, Memouna, vous nous faites le portrait de celui qui initie les étudiants à l'art du grand écran.
À l'âge de 6 ans, Will Markwell part visionner Le Roi Lion avec sa classe. Ça sera sa première expérience de cinéma, une expérience qui l'aidera à connaître sa vocation. Ayant grandi avec un père passionné de films d'arts martiaux, Will Mark est voué très tôt à être un cinéphile. Il produit lui-même, alors qu'il est très jeune, des mini-films avec ses amis. Aujourd'hui animateur d'ateliers cinématiques à l'Université Sorbonne Paris Nord et réalisateur, il nous raconte que son parcours n'a pas tout à fait été linéaire. En effet, il entame d'abord des études de journalisme et obtient un diplôme avant de retomber dans l'amour du 7e art et de décider d'y faire des études. Il va alors à l'Université de Marne-la-Vallée. Il souhaitait intégrer la FEMIS, une prestigieuse école des métiers de l'image et du son, mais il se retrouve freiné par les coûts de scolarité beaucoup trop onéreux pour les étudiants hors UE. Effectivement, Will Mark est haïtien, une identité qu'il revendique fièrement et à laquelle il souhaiterait rendre hommage dans son travail. Il travaille par ailleurs en ce moment sur un projet qui prendra place à Haïti et qui tournera autour du vaudou, cette pratique animiste qui considère que le cinéma hollywoodien a trop longtemps mystifié et diabolisé.
Plusieurs choses. Moi, déjà, j'ai envie de mettre la lumière sur des sujets qui me tiennent à cœur, donc forcément. Par exemple, en ce moment, mon boulot, c'est sur Haïti, le vaudou, un travail de dédiabolisation, parce que justement, le cinéma hollywoodien a diabolisé en partie le vaudou. Et donc, moi, ça, c'est un combat qui me tient à cœur sur des choses que j'ai envie de montrer, ces communautés de femmes en Haïti qui arrivent à supporter la misère autour de ça, etc.
Ayant donc un regard novateur, celui d'un jeune réalisateur racisé, Will Mark ne souhaite toutefois pas s'enfermer dans des cases et de ne se centrer que sur les siens. Dans une industrie où on assigne aux réalisateurs leur champ de réalisation en fonction de leurs milieux sociaux, il n'est pas toujours facile pour un réalisateur comme lui de ne pas s'auto-enfermer dans les cases qu'on lui prédétermine. Ainsi, il ne veut pas parler que de lui, mais de se diriger vers ce qui l'inspire.
J'ai pas forcément envie, parce que je viens de banlieue, de devoir absolument faire des films des banlieues. Parce que sinon, on est aussi enfermé dans une case. C'est vrai que des fois, on est les mieux placés pour raconter certaines histoires. Mais je pense qu'avec un vrai travail d'honnêteté intellectuelle, tout le monde peut parler de tout. Parce que sinon, tout le monde serait enfermé dans une case.
Décrit par les étudiants présents à son atelier comme étant un professeur cool et qui ne pose pas de contraintes, il se démarque effectivement par sa manière d'enseigner son art. L'une des étudiantes me raconte que l'atelier est animé par des visionnages de films, des discussions et des échanges, car ce que Will Mark veut transmettre en premier lieu, c'est l'amour du cinéma, l'amour d'aller au cinéma.
Comme c'est un atelier qu'ils ont des cursus à côté, moi je me dis que ça doit être déjà un moment plaisant. Pour eux. Donc en ça, je ne leur donne pas forcément de grandes contraintes sur la manière dont ils vont faire leur film et sur les sujets. J'essaie toujours de les pousser à prendre du plaisir à faire ce qu'ils vont aimer qu'ils aiment les films expérimentaux, comédies, etc., que chacun se sente bien. Donc en ce sens, on varie et on fait les groupes en fonction de ce qu'ils aiment ou de ce qu'ils ont envie de faire.
Néanmoins, le jeune réalisateur craint de ne pas continuer son métier de pédagogue s'il est inconciliable avec sa première passion, celle de réaliser des films.
Nous nous intéressons maintenant à un art vocal assez ancien. Il est apparu outre-Atlantique dans la seconde moitié du 19e siècle. Il s'agit du Negro Spiritual. Bonjour Christelle.
Bonjour Franck.
Alors vous vous êtes rendue à l'atelier de Negro Spiritual pour nous donner votre regard sur cette pratique.
Tout à fait. J'ai fait une observation participant dans cet atelier choral. Les Negro Spiritual que nous avons interprétés sont des chants symboliques. Le professeur a su nous représenter les sentiments et ressentis de chaque chant afin de pouvoir les interpréter. Étienne André, l'animateur de l'atelier et directeur financier à Sorbonne Paris Nord, est aussi à la tête d'une chorale. Ce fut une expérience enrichissante que je voulais partager avec vous.
Alors on écoute tout de suite ce reportage sur l'atelier de Negro Spiritual.
Tenez-le à.
Minuit 30, l'activité culturelle Chorale Negro Spiritual commence. A cappella, l'animateur Étienne André guide ses touristes afin d'échauffer leur voix. Cela se passe à Sorbonne Paris Nord à la chaufferie chaque jeudi. Étienne se place devant les participants qui sont alignés devant lui. Avec à sa gauche des rangées de chaises, à droite une batterie et des enceintes, et au milieu, le chef de chœur donne le ton, l'accent et la représentation parfaite pour conduire les participants à produire de par leur corde vocale la bonne note, le bon son, la bonne voix.
Ensemble, rythmique. Way in the water.
Mais qu'est-ce que le Negro Spiritual ? Le Negro Spiritual est un type de musique vocale et sacrée né chez les esclaves noirs des États-Unis au 19e siècle. Il est aussi à l'origine du gospel. Il faut savoir que ces chants permettaient des liens communautaires par la prière, la spiritualité et la musique à travers des workshops. Vous vous demandez sûrement, pourquoi choisir du Negro Spiritual à la place d'une autre chorale ? Eh bien, Étienne va vous répondre.
La magie indépassable de ces Negro Spirituals, c'est de la musique de tradition orale. On ne sait pas qui est l'auteur, mais cet auteur est parfait. Ça n'est pas une personne. Il n'y a pas de musicien suffisamment bon pour avoir écrit un spiritual. C'est impossible, c'est trop beau. Il y a une trop belle adéquation entre le rythme, le mot, le son, que seule l'intelligence collective de tout un peuple pouvait permettre d'obtenir, et c'est ça que j'entends dans les spirituals.
Ainsi donc, dans le Negro Spiritual, il n'y a pas de relevé musical, pas d'enregistrement, pas de partition, pas d'instrument, pas de paroles écrites. Le musicien, c'est le choriste a cappella. C'est lui qui donne le rythme et non pas un instrument. Ce qui veut dire que vous pouvez interpréter la chanson comme vous le voulez. Ça, c'est très important de le préciser. Tout simplement parce que vous pouvez passer de ça...
Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus.
À ceci.
Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus.
Cet atelier permet de se défouler, d'exprimer différents sentiments, ressentis, de crier et de ressortir tout ce qui a pu se passer dans la semaine. Et le fait de pouvoir interpréter chaque chanson d'une manière ou d'une autre permet de s'adapter à toutes les voix, à toutes les envies. Pas besoin d'avoir une voix d'ange, car ce qui fait l'essence d'une chorale, c'est la diversité du répertoire vocal de chacun des participants. Et plus on est nombreux, plus le son a de la force et de l'harmonie. À bientôt dans une autre activité culturelle.
À bientôt Christelle, merci à vous de nous avoir donné envie de chanter. Alors, s'adapter à toutes les voix, c'est joliment dit. C'est le cas aussi des autres ateliers, Xavier. Est-ce qu'il y a des prérequis pour s'inscrire à une pratique ou une autre ?
Non, il n'y a aucun prérequis pour s'inscrire à un atelier. Les ateliers sont ouverts à tous, à tous les étudiants, et gratuits. Ils servent avant tout à découvrir une pratique où en fait les étudiants ont un intérêt de base et aimeraient découvrir un peu plus cette pratique. On a cependant créé ce semestre un niveau 2 pour l'atelier langue des signes pour les étudiants qui avaient déjà une pratique de base au premier semestre ou de leur côté en fait dans leur vie au quotidien. Donc c'est une possibilité.
C'est une artiste plasticienne, plus précisément une peintre. Elle s'occupe des ateliers d'art plastique le mardi midi pendant que nous jouons avec nos micros de l'atelier radio dans la salle d'à côté. C'est Bérangère Humaro. Bonjour Adja.
Bonjour Franck.
Alors vous avez voulu en savoir plus sur cette artiste peintre et vous êtes partie à sa rencontre.
Oui, donc c'est une artiste peintre et aussi professeure de culture japonaise. Elle s'est reconvertie professionnellement après 17 ans dans le domaine de la mode, plus précisément dans le merchandising visuel. On parle de tout ce qui est mise en vitrine, par exemple chez Dior en Angleterre ou encore en Argentine. J'ai donc eu l'occasion de discuter de son parcours plutôt atypique, ainsi que ses influences dans ce qui la passionne énormément.
On écoute Bérangère Humaro, en charge des ateliers d'art plastique à l'université Sorbonne Paris Nord. Elle répond aux questions de Aja.
Je suis une jeune vieille artiste, puisque je me suis mise... Enfin, j'ai toujours peint et dessiné, okay. Mais je me suis mise assez tard. Mm-hmm. J'ai bossé dans la mode moi, pendant 17 ans.
En tant qu'artiste, quels sont les défis quotidiens auxquels vous faites face ?
Ah, les défis ?
Oui.
Oui, alors je m'en donne beaucoup, parce que ça m'aide à travailler.
Ouais.
En fait, c'est assez drôle que vous l'évoquiez.
Ouais.
Parce que dès que je termine un sujet, eh bien, parfois, je suis un peu... j'évite de paniquer en me donnant des contraintes. Je me dis, j'ai un sujet, et en fait, ce même sujet, je vais le développer 12 fois. Je suis beaucoup dans la répétition. C'est la contrainte qui me pousse à être créative et à chercher des nouvelles façons de voir... le motif que j'essaye d'évoquer.
Dans ce cas, quelles sont vos inspirations ou encore vos influences ?
J'ai renoué avec l'impressionnisme beaucoup, qui pourrait paraître aujourd'hui un petit peu désuet et un petit peu passé. En fait, l'impressionnisme est arrivé au moment où la photographie était en train d'exploser tout notre rapport à la représentation de la réalité.
Okay.
Donc pour les peintres, leur enjeu, c'était plus d'être réaliste.
Mmh.
Et donc c'était fini un peu. Mmh. Enfin, il y a eu un drame psychologique qui les a poussés à sortir de ce qu'ils savaient faire.
Ouais.
Et en fait, au lieu de représenter la réalité de manière réaliste, puisque maintenant la photographie défonçait tout,
c'est vrai.
Et bien ils se sont dit, on va être dans l'émotion. Okay. On va être dans la matière, dans l'émotion, dans la sensation.
Mmh.
Et ça... En fait, j'ai une exaltation à regarder les touches de l'impressionnisme.
Donc, quels sont les bienfaits de votre reconversion professionnelle, en soi, les avantages de votre métier ?
Déjà, je sais pourquoi je me lève le matin. C'est qu'avant, je n'avais pas l'impression de faire plaisir aux bonnes personnes. Ma pratique plastique, elle m'a fait réaliser un truc. Grâce à elle, je ne serais jamais seule.
Alors, à contrario, quels sont les inconvénients, justement, de votre métier ?
Liberté, précarité.
Ah.
Ça veut dire que j'ai pas du tout les mêmes revenus que ce que j'avais avant.
Ouais.
Je m'ampute de vraiment quasi 1000 euros par mois. Donc je suis obligée j'ai complètement changé mon train de vie.
Vous pensez que c'est un sacrifice qui en vaut la peine du coup ?
Ouais, je suis hyper heureuse. Si je n'arrive pas à m'en sortir, je serai obligée de retourner dans ce que je faisais
avant.
Parce que je le fais bien. Et ce sera un drame pour moi.
Ouais.
Donc il n'est pas question que je retourne dans la mode.
Bérangère Humaro, responsable de l'atelier art plastique au micro de Adja. On sent qu'il y a des vocations et des parcours qui convergent vers le service culturel de l'université. Xavier, c'est aussi un peu la force de cette équipe de pédagogues ?
Oui, le point commun entre tous nos intervenants, c'est avant tout la passion pour le domaine artistique en général et l'envie de transmettre cette passion à notre public. Donc nous espérons que cela fera naître des vocations parmi nos étudiants.
Merci beaucoup Xavier pour votre participation. Bravo à nos reporters en herbe qui se sont surpassés, Elodie, Memouna, Christelle et Adja. C'est déjà la fin de notre programme et comme souvent sur Radio Vilta, on se quitte en musique. Cette semaine, c'est avec un enregistrement de l'atelier de création musicale de Christophe Chevalier. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Vous écoutez Radio Vilta, ne changez rien.